R22 tout le monde, antenne Kiasma.
Bonsoir et bienvenue à l'espace Kiasma. Donc, c'est avec pas mal d'émotions et un assez grand plaisir, qui est une émotion comme les autres, que j'accueille ici pour la dernière fois à Kiasma Alice Rivière, qui a été en résidence pendant un an, une résidence d'écriture. Donc en fait, voilà, une résidence donc d'écriture où on a décidé d'accueillir mieux qu'un auteur un personnage conceptuel. Donc qu'est-ce qu'un personnage conceptuel ? C'est une sorte d'entité comme ça qui peut être le tressage de plusieurs puissances d'agir, de plusieurs volontés, de plusieurs personnes, d'un collectif. Donc dans l'ombre et souvent sur le devant de la scène au cours de cette résidence, il y a eu le collectif Ding Dang Dong, qui est un institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington. Donc un institut de coproduction de savoir, c'est vraiment jouer le jeu d'une sorte de dynamique collective et d'un savoir situé. Donc un savoir situé, un savoir ancré dans une expérience et dans quelque chose qui, finalement, de par cette relation au savoir incorporé et les connaissances et les savoir-faire que ça construit, est une sorte de force de résistance ou quelque chose qui demande la parole, qui veut s'inscrire dans un dialogue qui, la plupart du temps, n'en est pas un, qui est celui du diagnostic, qui est celui du rapport au corps médical. Donc, en fait, cette résidence, ce collectif, ce personnage conceptuel a porté la voix au cours de cette année d'Isabelle Stengers, de Bruno Latour, de Catherine Soljou, de Fabien Soufi, de tous les gens qui composent ce collectif et qui ont emmené la réflexion qui s'est menée ici, autour de laquelle on a créé vraiment une sorte de communauté, nous-mêmes en fait, dans cette idée d'accueillir en résidence, c'est-à-dire d'ouvrir sa porte, mais plus que ça, d'offrir ses clés, en fait, de mettre un lieu à disposition. Donc, Kiasma a vraiment été très heureux pendant un an d'être une sorte d'extension du laboratoire Ding Dang Dong et d'avoir réuni autant de co-chercheurs autour de la démarche d'Alice, qui était de constituer une sorte de panel de matériaux susceptible d'être injecté dans l'écriture d'un roman, Mutando, en mutant, en latin, qui raconterait l'histoire d'une mutation sur plusieurs millénaires, si j'ai bien compris l'ambition du projet. Donc voilà, en fait, on a fait tout ce chemin ensemble, on en est là maintenant, on a fait plein de détours, plein de zigzags, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été collectées, et maintenant à toi, pas de recoller les morceaux, mais plutôt de voilà, présenter un état possible du Pulse. Voilà, merci à vous, à tout à l'heure.
Merci beaucoup Sébastien, merci infiniment à Kiasma, à Olivier Marbeuf, bien sûr, qui n'est pas là ce soir, mais qui a été vraiment la personne qui m'a proposé de venir ici pour faire cette résidence. Et puis dans ce lieu si nécessaire et si important qu'est Kiasma, vive Kiasma vraiment au sens littéral. Et puis merci un tout merci particulier à Sébastien Ziegel qui a accompagné vraiment pas à pas cette histoire en soufflant sur les bébés puissance de ce projet. À tel point que grâce à sa bienveillance, certaines sont en train de devenir sans doute un peu grandes. Donc, vraiment, merci à toi. Alors, il y a 10 ans, j'ai reçu une information qui allait bouleverser ma vie sous la forme d'un chiffre, 42. 42 est le nombre de répétitions d'un petit codon appelé CAG qui se trouve quelque part dans mon 4e chromosome. Tout le monde a des répétitions de CAG, entre 9 et 35, on en a tous. Mais certaines personnes en ont trop. Or, à partir du moment où on en a plus de 39, très exactement, cela signifie qu'on est né avec une anomalie génétique qui déclenchera tôt ou tard la maladie de Huntington, une maladie rare, héréditaire, neuroévolutive qui se déclare forcément à un moment ou à un autre de sa vie d'adulte. Une maladie qui entraîne une cascade assez imprévisible de profondes transformations. La manière de penser change, la manière de bouger aussi, de s'exprimer, de se comporter, de respirer. Tout se métamorphose assez rapidement. On devient de plus en plus dépendant, fauteuil roulant et compagnie. J'ai passé le test qui m'a prédit un avenir huntingtonien dans le cadre d'un protocole interdisciplinaire qui a été soigneusement pensé par une assemblée de spécialistes et d'éthiciens internationaux. Ce protocole m'a rendue furieuse. On pourrait penser que c'est parce que le résultat du test que j'y ai reçu est défavorable et que je n'aurais pas été autant en colère si j'avais obtenu le bon résultat. Mais je suis persuadée que non. J'écris pas mal là-dessus dans le manifeste de Ding Dang Dong. C'était une colère fondatrice, c'est-à-dire incrustant dans tous les recoins de mon être la certitude que quelque chose devait être conçu à partir de cette connaissance de mon avenir qui ne soit pas seulement définie par la médecine, mais par bien d'autres choses dont j'ignorais alors la nature exacte, mais que j'appelais le vivant vivant. L'année dernière, ici même, j'ai raconté comment Valérie Pillet et moi, nous nous y sommes prises pour parvenir à réaliser un tel décollement qui était tout sauf une mince affaire. Il ne s'agissait pas de nos seules petites personnes, mais bien de parvenir à se mêler de l'histoire naturelle de la maladie de Huntington. Rien de moins. Pour y parvenir, nous avons fondé le collectif Ding Dang Dong en 2012, dont la mission est de fabriquer des savoirs qui explorent Huntington comme si c'était un monde et pas une maladie. En affûtant nos outils de description et de compréhension pour qu'ils soient à la hauteur de la richesse extraordinaire de cet univers que nous appelons le Huntington Land. Pendant ce temps, je travaille à Mutando, du latin en mutant, entreprise romanesque, entreprise comme Enterprise, le vaisseau de Star Trek. Mutando est ma propre enquête existentialo-scientifique qui prend pour point de départ la mutation génétique responsable de la maladie de Huntington et qui chemine en arrière, en avant, sur les côtés et surtout à travers les champs ouverts par cette histoire de mutation, faisant de moi et de nous autres les H, H pour Huntingtonien, logique, des mutants. Il y a tant de débuts possibles à cette histoire. Mon plan bégaye beaucoup à cause de cette infinité de possibilités-là, ne sachant quel début choisir pour commencer à filer mon ouvrage. Comme chez le poissonnier devant l'étal des tourteaux vivants. Lequel voulez-vous ? Moi je réponds, choisissez pour moi, ils sont tous si jolis, ils sont tous si vivants. Devoir faire ce genre de choix me fait tomber en panne. En plus c'est trop cruel, comme si j'étais César ou le grappin des crabes. Alors ça pourrait être début numéro 1. Ça pourrait commencer comme ça, il y a 800 millions d'années, environ. J'aime bien ce si vaste environ-là. Dans les sous-bois peuplés de dictyostélium, que j'appelle dicty, la petite amibe, où l'amorce de la mutation Huntington apparaît pour la première fois. La question de ce qu'est une amibe, de ce qu'elle fait là, son devenir, sa façon d'avoir traversé tout ce temps jusqu'à nous tous, et puis jusqu'à nous autres Huntingtoniens, chez qui cette mutation est présente sous une forme superchargée, quel lien cela tisse entre Dicty et nous ? Dicty la fabuleuse, qui est souvent appelée l'amibe sociale. Pour commencer, elle nous montre tout ce qu'elle a. C'est un organisme transparent, limpide, mais surtout, elle nous montre comment d'unicellulaire, elle devient multicellulaire. Jean-Claude Amezen décrit bien ce processus dans son livre « La sculpture du vivant », je le cite. « C'est une colonie qui, lorsque l'environnement devient défavorable, se met à former un corps compact. Ce corps, rassemblant progressivement plusieurs centaines de milliers de cellules, commence à se déplacer comme une limace, puis, au bout de 24 heures, se dresse vertical au-dessus du sol. C'est un véritable corps au sens où il est formé par un agrégat, de cellules attachées les unes aux autres dans l'espace. Mais c'est un corps transitoire qui, lorsqu'un environnement redeviendra favorable, se redissociera pour redonner naissance à une colonie cellulaire formée de cellules individus qui, un jour peut-être, reformeront pour un temps un nouveau corps. » Alors, vous allez tout comprendre parce que je vais vous montrer un petit film où on on voit Dicti. Alors, il faut juste que je...
These slugs are active, searching the terrain for a suitable place to settle and leaving a trail of slime as they go. Remember that each slug consists of thousands of free-living amoebae which now have organized themselves into a cohesive unit and which synchronize their activity. During its travels, an individual slug may fuse with other slugs it happens to encounter. Meanwhile, a few individual mix amoebae are still visible, moving around on the surface. After this migratory activity, the slug rounds up again, but this time it flattens onto the surface and then grows a thin stalk with a fruiting body on the tip. Throughout these maneuvers, the mix amoebae remain separate individuals. During this final phase of reproductive activity, the behavior and fate of each cell continues to be subordinate to a self-generated pattern. The mix amoebae in different parts of the pseudoplasmodium differentiate into three main types of cells with different functions. Some cells form the base and others the stalk, while the rest migrate up the stalk and turn into spores in the fruiting body. The mature spores are later released.
Ça pourrait aussi commencer par mon séjour au laboratoire d'Elena Cattaneo à Milan l'année dernière, là où la mutation Huntington est étudiée sous toutes ses coutures et formidables déclinaisons. Elena Cattaneo et tout le Cat Lab, comme on surnomme familièrement son laboratoire de neurobiologie, travaillent à reconstituer la progression de cette mutation depuis son apparition au sein des toutes premières formes du vivant, il y a 800 millions d'années, avec notre chère petite Dicti. Elena s'intéresse aux fonctions normales de la Huntington. Huntington, c'est la protéine que nous possédons tous et qui est générée par la fameuse mutation Huntington, dont on peut mesurer la plus ou moins grande présence en comptant le nombre de répétitions de CAG, ou poly-Q, on dit en anglais. Avec sa collègue Chiara Zucato, elle traque la présence de cette mutation depuis les espèces fossiles jusqu'aux espèces actuelles, les insectes, les singes, les poissons rouges, les chauves-souris, les perruches, les chats, les chiens. Elles ont rassemblé tout ça dans un schéma qu'elles ont mis 5-6 ans à constituer, tellement c'était vraiment énormément de données. Elles essayent de mettre en évidence, c'est tout l'enjeu de leurs travaux actuels, le fait que la mutation à la base de la maladie de Huntington a été favorisée par l'évolution parce qu'elle serait nécessaire à tout un chacun. Elle faciliterait la communication des neurones entre eux, ce qui en fait une protéine, je cite Elena, éminemment sociale. Notons qu'on retrouve le même qualificatif que pour Dicti. Selon cette approche, ceux qui possèdent plus de 38 répétitions de CAG, autrement dit les Huntingtoniens, vont un peu trop loin, comme si, dit Elena Cattaneo, ils exploraient au prix de leur personne les régions obscures au-delà des traces laissées par leurs prédécesseurs, tels des pionniers de l'évolution. Vous comprendrez maintenant pourquoi j'aime désormais passer du temps chaque année à Milan pour faire un petit pèlerinage au Cat Lab. Aux dernières nouvelles, le labo travaille à fond sur des espèces que l'on trouve particulièrement en Australie, les opossums, marsupiaux, koalas, kangourous, etc. Ces espèces correspondraient à un chaînon particulier, un chaînon charnière dans l'évolution du point de vue de la présence des CAG. Les oiseaux, poissons, reptiles ont 4 répétitions, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est là, hein, voilà, là, voilà. Et là, les mammifères... À partir des opossums, on en a 6, 7, etc. Et donc ça, c'est vraiment une charnière mystérieuse. Qu'est-ce qui fait qu'on décolle à partir du moment où on rentre dans le monde des mammifères ? Donc ce genre de bifurcation est grouillante d'hypothèses. Quant à nous, Huntingtoniens, peut-être sommes-nous charnières vis-à-vis de ceux qui nous suivront, hein, parce qu'on a les humains là, tout en haut, de 9 à 35, et nous, on est plus haut encore. On ne sait pas ce que ça va donner. Sans oublier les détails pratiques de tout cela, Giulio, le jeune collègue de Chiara, qui, tel Tintin, se déplace physiquement sur tous ses terrains pour récolter les échantillons, et qui vient de passer 3 mois cette année au Japon pour recueillir des petits bouts de macaques. Alors je vous rassure, il ne les tue pas, c'est juste des petits bouts d'ongles, de salive ou de poils, un peu de sang parfois. Donc des petits bouts de macaques qui vivent dans les montagnes autour de Kyoto. Giulio vivant là une aventure très particulière, c'était son premier séjour au Japon. Les chercheurs japonais, les montagnes magiques, les dieux et les fantômes peuplant les temples cachés dans la brume, les relations des habitants de Kyoto aux singes. Est-ce que je vais jusque-là ? Où dois-je m'arrêter ? Le problème avec cette manière de faire, ce n'est certes pas le vide, c'est le bruissement incessant des possibles. Ou encore, le début, qui raconterait l'enfance de ma mère, Anouk. Son père, sa grand-mère paternelle, cette histoire de lignée huntingtonienne qui se faufile entre nous. Un début très romanesque alors, car j'ai peu d'éléments, et il a fallu que je colmate les trous avec de l'imagination. Un texte qui m'a échappé en est sorti, que je n'ai jamais pu lire sereinement, qui me fait monter le rouge aux joues, non par honte mais par étrangeté, dont je ne sais pas bien quoi faire, qui ne va pas tout seul et qui ne va pas non plus avec d'autres choses et qui pourtant insiste pour exister, autonome, comme une vision tenace qui se serait inscrite à l'arrière de mes rétines pour y demeurer quoi que je fasse. Pendant ce temps, le philosophe Didier de Bèze, membre de Ding Dang Dong, dit ici même, je le cite, « La fiction, ce n'est pas juste la littérature ni l'esthétique, c'est donner toute sa consistance à ses pourrait-être. Pas par jeu et exercice, mais parce que c'est là où se joue en même temps la fragilité de ce qui se passe et en même temps son importance. Quand on s'intéresse à ce qui pourrait être, mais qui n'est pas nécessairement donné, on s'intéresse au caractère tout à fait fragile de ce qui est occupé à se passer, du fait que c'est toujours en limite de basculement. La fiction, c'est refragiliser les situations qui sont généralement montrées comme absolument nécessaires, robustes, etc. Par rapport à la robustesse du diagnostic qui est fait, qui dit déjà tout ce qui va suivre, face au diagnostic qui dit ce qui va être de l'événement en totale robustesse, la fiction, c'est la fragilisation de cette parole-là. Fin de la citation. Le roman pourrait également commencer ainsi. Lors d'une visite à ma mère, Huntington en stade avancé, vivant dans un établissement pour personnes âgées dépendantes depuis l'année dernière, institution que nous observons avec une curiosité d'entomologiste, mes sœurs et moi, et qui nous apprend bien des choses. Anouk vient de se casser 3 côtes en tombant de son lit. Je suis en train de lui dire au revoir à la fin d'une de nos visites hebdomadaires. Nos regards se touchent d'abord banalement, juste comme ça, comme quand on parle à quelqu'un. Et puis, quelques secondes plus tard, peut-être parce que, sans le faire exprès, je suis en train de la contempler plus que de la regarder, tandis que je lui dis au revoir, à la semaine prochaine, on s'appelle, n'oublie pas de prendre tes pilules de prêle pour la reminéralisation de tes nonos cassés. On glousse doucement à cause de ce mot de nonos qu'elle utilisait elle-même pour évoquer l'os du gigot dont elle a toujours raffolé au point de se relever la nuit pour y retourner. Je réalise soudain la délicatesse de ses traits et en même temps quelque chose qui n'est, contrairement à ce que pourraient laisser penser les circonstances, pas du tout vulnérable. Son regard répond à mon regard qui s'est mis à la contempler et je crois qu'à ce moment-là, elle se met à contempler ma contemplation. Tranquillement. Le début. Qui fouillerait d'emblée une voie alternative à ce qui a eu lieu lorsque j'ai passé le test présymptomatique où l'on m'a annoncé un avenir, je cite, épouvantable. Le début qui, à partir du fameux 42, ferait tout autre chose qu'un verrouillage univoque de mon destin, autrement dit une malédiction. Je suivrai alors les pas de Catherine Soljou, historienne et philosophe des sciences, qui travaille à Ding Dang Dong sur l'histoire, ou plutôt les histoires, de ce test présymptomatique. Catherine explore les fondements de cette manière de faire prédiction tendance malédiction, et chemin faisant, elle cherche encore plus loin dans l'histoire de quoi imaginer d'autres prises possibles à partir de ce geste, du côté des oracles de la Grèce antique. Catherine Soljou, ici même, je la cite. « Que nous disent les oracles ?» Il n'y a évidemment pas une réponse unique à cette question fort allusive, mais il y en a une, au moins, qui consiste à ne pas oublier qu'il y a eu un temps dans notre histoire occidentale, où les humains possédaient une culture, ou plutôt des manières et des savoirs de faire, de cultiver et de composer avec la connaissance le savoir précipité de ou sur l'avenir. Il ne peut évidemment pas s'agir de proposer des reenactments de pratiques antiques, mais on peut très bien se demander si ces pratiques contenaient des aspects dont une réactivation prudente serait prometteuse. Suivant cette hypothèse, je me suis surtout plongée, poursuit Catherine, dans un texte de Plutarque intitulé « Le déclin des oracles ». Là, je résume un peu, Plutarque raconte tout d'abord qu'à Delphes, il fallait respecter toute une série de conditions ultra précises pour qu'un oracle puisse se tenir. Puis venait le moment de l'interprétation. Et je reprends Catherine. À Delphes, comme ailleurs, les conseils et les prophéties prenaient la forme d'énigmes. On s'assurait ainsi que la prédiction était suivie d'une phase d'interprétation dont l'oracle n'était plus lui-même responsable. Le conseil se dissocie en deux étapes. Dans un premier temps, des commentaires, médiumniques ou transcendants, charismatiques étaient donnés. Et dans un second temps, ces commentaires étaient interprétés. Tandis que le devin véritable, la Pythie ou la Sibylle inspirée par le dieu parlait en énigme, des rangées entières de spécialistes de la lecture, de la traduction et de l'interprétation de ces énoncés énigmatiques se tenaient prêts autour de Delphes et des autres lieux oraculaires. Une prophétie n'acquérait donc son sens et sa dynamique véritable qu'une fois passée par de nombreuses mains, après avoir été en quelque sorte collectivisée. Ce faisant, il était absolument nécessaire de tenir très exactement la distribution des rôles, puisque celle-ci répartissait en même temps la responsabilité et les risques concomitants de toute prédiction. Dans ce cadre, la production d'une connaissance de l'avenir toujours fragile reposait donc sur la multiplication stratégique des acteurs et des fonctions, tant dans ses préparatifs que dans ses suites. Sans l'intervention coordonnée de ces rôles divers, cette connaissance ne pouvait même pas être produite. À la question « qu'est-ce qui caractérise une prévision-prédiction réussie ?» ou encore « quelles en sont les réquisites ?», Catherine Soljou répond « on peut désormais nommer au moins deux de ces réquisites ». Contrairement au pronostic, dont l'outil principal est un calcul de probabilité appliqué à l'entité dont on souhaite déterminer l'avenir, les pratiques divinatoires ne sont pas centrées autour de celui qui demande une prédiction ou un conseil. Au contraire, elles doivent prendre en compte toute une série d'éléments, humains et non humains, et évaluer si elles conspirent ensemble de manière suffisamment rassurante pour oser une prédiction. Le deuxième réquisite concerne le statut de l'énoncé divinatoire lui-même. En contraste avec un diagnostic médical, il ne désigne pas une réalité soit actuellement, soit virtuellement accomplie, mais confronte tous ceux qui sont impliqués dans un processus divinatoire à une énigme qui peut servir comme point de départ ou comme contrainte pour la fabrication d'un monde possible à construire ensemble. On continue. Au fond, tout au fond, dans le monde si noir des abysses, là où le soleil ne pénètre jamais et où les seules lumières qui trouent l'immensité sombre alentour sont celles des créatures lentes et éternelles qui sont ici chez elles et qui me font si peur, mon visage s'est mis à fondre. Il glisse vers le bas, qui est ici un haut. Plus rien n'a le même sens, désaxant l'orientation telle que je la connais depuis toujours. L'immobilité absolue de ce lieu abrite de puissants mouvements qui efface et remplace toutes les coordonnées habituelles. Le haut et le bas finissent par disparaître, seul compte ce qui me traverse et ce qui joue avec moi tandis que je gonfle au point d'éclater. Ce qui m'entoure, ce qui me presse, ce qui me dilate, ce qui m'éparpille, ce qui me distribue sont les propriétaires de ce que je suis en train de devenir. L'extérieur n'existe plus, il n'y a plus que de l'intérieur. Le sel cuit mes chairs déchiquetées. Le buisson de mes poumons, désormais inutiles, se tient suspendu au milieu d'un banc d'hippocampe. Contrairement aux apparences, je ne suis pas morte. Mes bras et mes jambes suivent chacun leurs propres pulsations, vigoureuses, déterminées, sûres d'elles-mêmes, suivant le rythme d'une musique inaudible pour l'oreille humaine. Je suis répandue, je suis éparpillée. Je suis cette cohorte de plancton et je suis cette anémone dont les couleurs éclatantes sont invisibles pour l'œil humain. Je suis le ressac dont chaque balancement scande le franchissement d'un millénaire. Je suis ce courant glacé et cette rivière tiède d'eau douce souterraine qui traverse cette région du centre de la Terre. Elle est aussi moi. Je suis l'épaisseur de l'eau salée. Je suis l'immensité de cette consistance-là. Et je suis aussi ce bourgeon vigoureux qui est en train de faire éclater la carapace de cette araignée de mer. Je suis ce qui est enraciné tout en bas et ce qui flotte tout en haut, ramifié en un delta infini qui forme la nouvelle carte de ma surface. Je ne savais pas, mais maintenant je sais le pouvoir hautement révolutionnaire de la catastrophe. Vois comme je souris. Didier Debèze avec Bruno Latour, ici même. Le problème n'est pas comment nous relier à la catastrophe, mais comment habiter les ruines de la catastrophe, c'est-à-dire l'après, le moment où la catastrophe a eu lieu, comment la sidération a eu lieu et comment réhabiter ce monde-là. Sortir de ça présuppose que l'on ait habité ce désastre, que la reconnaissance du désastre ait été établie. On va écouter Didier Debèze.
Un deuxième élément que j'ai trouvé très fort dans l'expérience Ding Ding Dong, c'est...
Les Belges ont une façon curieuse de prononcer Ding Dang Dong.
Non, mais ça marche aussi. Hein.
Toi, tu le dis comment?
Ding Dang Dong.
Et moi, je dis quoi?
Ding Ding Dong.
Mais c'est des cloches.
Hein.
Non, mais
oui.
C'est une façon belge qui est
Ding Ding Dong, que vous traduirez donc par Ding Dang Dong. Donc, le deuxième élément, c'est, résister à l'espoir. Et ça, c'est vraiment très... je pense que c'est quelque chose auquel le travail d'Alice Rivière, qu'on retrouve aussi d'ailleurs le même thème dans le dernier livre de Bruno, résister à l'espoir. Et pourquoi ? Parce que l'espoir, c'est... une espèce de préformatage du possible. Espérer quelque chose, c'est espérer ce qui a déjà eu, c'est espérer retrouver quelque chose. La personne qui a pris la parole tout à l'heure a parlé des rapports mélancoliques au nostalgique, du retour du mélancolique ou du nostalgique. L'espoir, c'est toujours le retour en arrière, c'est retrouver ce qui nous avait échappé. C'est espérer retrouver une situation antérieure. C'est avoir déjà l'idée de ce qu'on va trouver. Et ça nous met dans une modalité où le choix, les modalités d'existence, les modalités de vie sont déjà relativement préformatées. Où le possible est totalement inscrit dans ce qui a déjà eu lieu, dans un réel auquel on n'a pas accès parce que c'est le réel d'un autre, parce que c'est le réel d'un voisin, ou parce que c'est le réel de celui qui est en bonne santé pour le malade, c'est le réel de celui qui a réussi telle chose pour celui qui ne l'a pas fait. Donc on est toujours dans une préconfiguration du possible. Là où Ding Dang Dong... redonne au possible son caractère d'indétermination, c'est-à-dire nous ne savons pas vers quoi ça va. Simplement, il y a à problématiser les situations dans lesquelles nous nous trouvons, problématiser le rapport à la maladie, problématiser le diagnostic, et recréer du possible, c'est-à-dire quelque chose qui nous plonge dans une zone d'indétermination et qui ne peut que s'expérimenter collectivement. et ça passe effectivement par la fiction. En partie par la fiction, fiction d'un institut comme Ding Ding Dong, ou Ding Dong Dong, fiction des rapports sur ce que pourrait être une maladie que tout a préformaté, ou que ceux qui la présentent ont tendance à préformater, etc. Mais ce ne sont jamais des fictions imaginaires, et ça c'est aussi un point que je voudrais mettre sur la table, c'est que la fiction ne relève pas de l'imaginaire, c'est-à-dire d'une capacité à proposer quelque chose en dehors de toute condition située, historique, sociale, vitale, à un moment déterminé. Il faut résister d'une certaine manière à l'imaginaire. L'imaginaire, c'est l'espèce de recouvrement embellissant d'une réalité qui serait désastreuse, au profit de ce que James a appelé cultive, c'est-à-dire le rapport de l'imagination. Il ne faut pas confondre l'imagination et l'imaginaire. L'imagination, c'est la capacité à créer du possible dans des situations qui, d'une certaine manière, ne le permettraient pas.
Marche doucement, car tu marches sur mes rêves. Cela pourrait aussi commencer par cette citation de Yeats que Piano, un ami et co-chercheur huntingtonien, nous a offert cette année tandis que nous réfléchissions aux meilleures manières d'accueillir nos métamorphoses en train d'advenir. Marche doucement, car tu marches sur mes rêves. Le début qui prendrait les choses depuis le futur, dont je tiens un journal, à l'endroit des visions et des rêves, et notamment des rêves de poissons, dont je note la fréquence particulièrement élevée chez nous autres, les H. 24 mai 2037. La télévision, j'y prends du plaisir seulement quand j'y gobe un mot qui me fait presque le même effet que la mouche de l'autre jour. C'était, je crois, à l'intérieur d'une publicité pour quelque chose à base d'eau de Javel, et ce mot qui disait « blancheur pure » s'est glissé à l'intérieur de ma tête en creusant sur son passage tout un trajet rafraîchissant. 25 juin 2039. Quand mes petits-neveux viennent me voir, ils me demandent parfois de le faire, histoire qu'on rigole. Ils retirent le bouchon de ma gastrostomie pendant que j'inhale une bouffée de leur cigarette électronique. Ils obstruent ma bouche avec le bavoir et hop, ça fait un beau jet de fumée vaporeuse que je recrache par mon trou supplémentaire. La vie augmentée. Parfois, je fais l'inventaire de ceux qui travaillent pour moi. Ça fait 42 personnes. Bien sûr, ce n'est pas moi qui les paye tous directement. Moi, je paye l'établissement, environ les deux tiers, et l'État paye le reste. Je paye aussi tous les à-côtés auxquels je n'ai pas voulu renoncer. Je crée de l'emploi. Pendant ce temps, s'ouvre également une enquête à propos de ce qui sert si souvent de base à la recherche fondamentale sur la maladie de Huntington, les souris transgéniques, créées non seulement huntingtoniennes, mais super huntingtoniennes, portant jusqu'à 175 répétitions de CAG, à des fins de recherche. Elles font partie du paysage, entité omniprésente, peuplant le fond de chacun des milliers d'articles scientifiques produits, de chaque speech dans chaque congrès spécialisé, servant de base à des milliers d'expériences dans des centaines de laboratoires. Fondement de ces savoirs indénombrables, ces souris forment pourtant un non-sujet d'attention. Elles m'intriguent profondément pour des raisons sentimentales aussi floues que puissantes, mais pas seulement. Consulté ici même à ce sujet, Vinciane Després, également membre de Ding Dang Dong, après avoir analysé plusieurs sites d'expérimentation où les rats et les souris sont en jeu, nous a enseigné que le problème n'est pas tant ce que la maladie de Huntington fait à ces souris, que ce que ces souris font au savoir sur la maladie de Huntington. Je la cite. Alors donc, si les animaux, parce qu'ils sont pris dans cette sorte de machine à fabriquer des modèles, façonnent des manières de concevoir la maladie, lui donne une certaine identité, j'aurais envie de demander comment les souris huntingtoniennes elles-mêmes sont enrôlées dans une certaine conception de la maladie, comment elles jouent un rôle dans l'identité de cette maladie, quels sont les effets de la sortie de laboratoire. Comme par exemple, Comment, par exemple, le fait de surcharger les gènes responsables va donner une certaine forme, va nourrir certaines versions de la maladie? Et comment le fait que cette maladie se développe dans un milieu uniquement défini par un corps mis à l'épreuve va aussi façonner le devenir malade? Comment, en d'autres termes, une méthodologie ou une pratique particulière impliquant des vivants particuliers s'avère-t-elle productrice d'une ontologie particulière, celle de la maladie, d'une esthétique particulière, la manière dont elle est vécue et perçue, fictionnée et dramatisée, et celle d'une politique particulière, la manière dont on va composer avec elle. Fin de la citation. Le début, qui bifurquerait d'emblée à partir de ce dont j'ai hérité passivement, cette mutation génétique, je me dis souvent que la meilleure formule, ce serait de dire « j'ai été hérité par la maladie de Huntington ». Pour aller vers ce dont j'ai besoin d'hériter activement, ce qui me rendra capable de sculpter quelque chose de vivant-vivant avec ce que j'ai accueilli dans mes gènes. Autre manière de dire cela, s'intéresser aux forces. Ce qu'Anouk m'a dit lorsque je lui ai annoncé le résultat de mon test génétique, « Ne regarde pas ce que tu perds, regarde ce que tu gagnes. » Cette année, j'ai demandé aux entendeurs de voix de nous faire un cours pratique sur la manière dont il est possible de cultiver ces fameuses forces. Vincent Desmassiers et Magali Molinier sont tous deux les présidents du réseau sur l'entente de voix français, dont l'acronyme est le REVE. Ce réseau rassemble des personnes qui entendent des voix ou qui se sentent concernées par ces phénomènes et qui assument clairement le principe de prendre au sérieux ces expériences en considérant que ces voix et ces présences sont réelles. À l'origine du réseau, il y a donc tout d'abord un renversement spectaculaire par rapport à la posture psychiatrique vis-à-vis de la schizophrénie, ne pas se considérer malade, mais doté d'un sens en plus, d'une capacité singulière, l'entente de voix, ou d'autres expériences, hein, ça peut être d'autres perceptions, les odeurs, les bruits, les visions, bien sûr. L'approche du rêve consiste à ne plus chercher à éliminer à tout prix ces phénomènes, mais à s'y intéresser et de là à imaginer des manières efficaces d'y faire face et de vivre avec. Vincent nous a raconté longuement son histoire, le démarrage des voix, les circonstances si spéciales de leur apparition dans sa vie, ce qu'en a fait le soin à ce moment-là, c'est-à-dire la psychiatrie, pendant des années, diagnostic de schizophrénie bien sûr, hospitalisation, dose de neuroleptique 7 fois supérieure à la normale, il pèse alors plus de 200 kilos, etc., etc., jusqu'à la rencontre dans un groupe de parole avec des entendeurs de voix. Là, ses pères commencent à lui enseigner, pas à pas, l'art de la négociation avec ses voix, comment arriver à leur dire non et à ce qu'elles parviennent à entendre et à respecter ce non. Dès lors, parvenir à gagner un peu de liberté et à partir de ce un peu-là, permettre que la vie puisse à nouveau se déployer. C'est Vincent et ses pères qui m'ont aidé à m'affranchir de l'autorisation qu'il me semblait nécessaire de devoir demander à la médecine pour me regrouper avec mes propres pères, les porteurs de la maladie de Huntington. Les entendeurs m'ont dit « Discutez-en ensemble, discutez de ce que vous pourriez gagner en faisant ainsi, établissez vos propres règles de bon sens, vous n'avez à demander à l'autorisation à personne. » Ont-ils un jour été eux-mêmes autorisés de la même manière par un groupe? Qui sait, peut-être les alcooliques anonymes qui sont les parrains en quelque sorte de tous les groupes d'auto-support en matière de soins? Ça me donne envie de commencer le roman en retraçant cette généalogie de transmission de force qui se forge dans l'ingéniosité de ceux qui s'entraident. C'est aussi une enquête physique. Huntington est une maladie du mouvement. Elle entraîne, pas toujours, mais la plupart du temps, une chorée des mouvements involontaires de tout le corps qui apparaissent et s'étendent peu à peu, qui peuvent être très spectaculaires et qui sont souvent tassés par des neuroleptiques, justement. Cette espèce de danse involontaire a donné jusqu'à peu son nom à la maladie chorée de Huntington. Dans le spectacle que nous avons recréé cette année, Bon baiser de Huntington Land, il y a une scène de quelques minutes où la danseuse et chorégraphe Anne Collot, ici présente, membre de Ding Dang Dong, nous apprend quelques mouvements propre à la Corée d'un homme atteint par Huntington qui avait une Corée flamboyante, Monsieur D. On l'appelait D. J'ai adoré ce moment. Je m'y suis sentie exactement à ma place, dans quelque chose de très juste, un apprivoisement physique qui passe par la Corée d'un autre. Ce n'est pas de l'identification, c'est encore autre chose. Et c'est quoi ? Je ne sais pas bien. Je ne suis pas sûre. Il faut faire très attention, ne pas se hâter de qualifier ce genre d'expérience. Ce n'est d'ailleurs pas un problème que cela reste trouble un moment, non déterminé. Mieux vaut faire preuve de ce que Vinciane Després appelle le tact ontologique. Que d'écraser ce moment où je me glisse dans la Corée d'un autre par l'intermédiaire d'une troisième personne, Anne Colo, dans une quelconque explication, ou en tout cas une explication d'un type qui lui préexisterait. Toujours est-il qu'après avoir fait une chose pareille, je ne suis plus la même personne. J'ai chopé quelque chose dans mon corps. Une cavité que j'ignorais posséder s'est remplie, qui augmente ma capacité, que ce soit pour mon futur moi-même, une espèce de chemin possible pour mon futur moi. Et dès à présent, lorsque je suis au contact de malades, j'appréhende désormais complètement différemment leur Corée. Ici même, Isabelle Stengers, philosophe et marraine de Ding Dang Dong, nous a invités à penser la création de savoir sur Huntington sous les auspices de ce que Donna Haraway appelle SF. Je cite Isabelle Stengers. Non pas le signe de la science-fiction, mais le signe d'une série de termes qui répondent au même sigle SF, pour speculative fiction, féminisme spéculatif, faits scientifiques, et puis so far. So far, dit Isabelle, j'aime beaucoup. C'est jusqu'ici, comme on dit jusqu'ici ça marche, jusqu'ici ça tient, mais sans garantie. C'est-à-dire que c'est contre à la fois l'idée de garantie et de destin. Je crois que so far, c'est quelque chose dont chacun d'entre nous peut dire, notre vie est toujours quelque part sous le signe du jusqu'ici. Jusqu'ici, ça tient. Et puis finalement, SF pour String Figures, ou jeu de ficelle. Isabelle, je la cite, « Ce que j'aime beaucoup dans cette figure de ficelle, c'est que le motif est toujours proposé par l'un à d'autres. On pourrait dire qu'il n'est pas maître de ce que les autres mains feront de ce qu'il propose, mais sans ce motif offert, rien n'aurait pu être fait. » L'autre motif est à la fois d'une certaine liberté par rapport au premier, mais redevable au premier pour sa possibilité même. Isabelle a souligné le fait que ce jeu de ficelle, dans d'autres peuples, n'est pas un jeu du tout, c'est une narration cosmologique. Sans vouloir faire de jeu de mots idiots, ce n'est peut-être pas un jeu, mais ça fabrique du jeu, comme on dit quand quelque chose est trop serré. J'ai besoin de jeu. Quand je vais voir les entendeurs de voix à partir de mon motif, ce qu'ils en font et ce que je vais faire de ce qu'ils en font fabrique de l'espace, de nouveaux interstices, des possibilités inédites, des voies neuves de circulation. Le monde s'étend. On va écouter un peu d'Isabelle.
Je crois qu'on devrait plutôt dire que dans ce cas, dans le cas probablement de la maladie d'Huntington, comme dans le cas de l'hypnose et comme dans beaucoup d'autres cas qui relèvent de ce qu'on appelle le psy, on ne sait pas, ne signifie pas du tout, on manque de savoir. On ne sait pas parce qu'il n'y a rien à savoir indépendamment du milieu où se cultivera ce X qui n'a pas de définition positive indépendamment de ce milieu. De la même manière que, de manière plus générale, un humain, par exemple, n'a pas de définition véritablement positive indépendamment du milieu où il grandit. Un humain séparé d'un milieu qui lui permet de devenir humain, on sait ce que c'était, hein, c'était les enfants loups qui couraient à quatre pattes et partageaient l'écologie des loups. C'était des loups plus ou moins bricolés. Ça s'appelle penser par le milieu. Ça ne veut pas dire que l'hypnose ou la maladie d'Huntington sont simplement, n'oubliez pas, motif, prise. Jamais de cause à effet, jamais de conséquences directes là. Ce ne sont pas simplement des reflets de ce que le milieu en pense, ce sont des rencontres avec un milieu. Cela se nourrit de son milieu, mais ça se nourrit sur son mode propre. Les différentes maladies psy ont chacun leur style. Mais ce style a besoin d'un milieu pour explorer ce dont il peut devenir capable. Et ce milieu peut aussi réduire, sans le savoir, à néant, ce dont il pourrait devenir capable. C'est en fait la science-fiction qui m'a pensé par le milieu, c'est une expression de Gilles Deleuze, mais comme beaucoup d'expressions de Gilles Deleuze, on peut la faire quelque chose de très compliqué et de très fascinant, ou bien comme il l'espérait, je crois, prendre comme un motif, d'où, à partir duquel, avec lequel penser. Et c'est la science-fiction qui m'a aidé à prendre l'idée de penser par le milieu comme véritablement un outil de pensée ou un motif de pensée.
Donc, à partir de maintenant, ma liste des débuts se métamorphose pour devenir quelque chose sur les milieux. Et plus exactement sur les milieux des débuts. Car cette année à Ding Dang Dong et en collaboration avec Kiasma, 5 personnes porteuses de Huntington participent à un travail sur les débuts de la maladie au titre de co-chercheurs. Le début de Huntington, le moment où la maladie se déclenche, où elle cesse d'être silencieuse après des dizaines d'années, reste extrêmement énigmatique. Très peu étudié, à part à coup d'imagerie, d'IRM, encore un beau SF pour faits scientifiques, montrant que l'atrophie cérébrale a commencé alors que les symptômes ne se voient pas encore à l'œil nu. La question est toujours posée de manière binaire. La maladie a-t-elle commencé ou pas ? Est-ce que tel signe, angoisse, fatigue, petite perte d'équilibre dans la vie quotidienne, maladresse, tristesse, impatience, ça en est ? C'est du Huntington ? Cette manière de prendre les choses transforme tout le monde en policier. On devient policier de soi, de son proche, de son patient, scrutateur, épieur, délateur. Pendant ce temps, du côté des porteurs du gène, bien des choses indicibles sont ressenties qui ne sont pas prises au sérieux. Nous avons demandé à nos co-chercheurs qu'ils écrivent un journal de bord sur leurs sensations et cela nous a servi d'amorce pour travailler à ce mystère des débuts invisibles de la maladie. Grâce à ces documents, on s'est rendu compte à quel point le Huntington Land est le royaume de la décomposition. Chaque action, par exemple faire la cuisine, correspond en réalité à une succession d'actions bien distinctes auxquelles il faut accorder toute sa concentration. Un peu comme si le temps devenait myopie. Vivre, c'est alors s'approcher de chaque chose au point de la toucher du bout de son nez, la parcourir de toute son attention avant de passer à la suivante. On se rapproche tellement du moment qu'on peut presque disparaître dedans. Sans le faire exprès, on suit alors des principes zen très sophistiqués. C'est ce qui a inspiré à nos co-chercheurs l'idée de s'appeler les Zentingtoniens. Mais comme on n'a pas du tout été éduqués ainsi par chez nous, c'est plus déstabilisant et douloureux qu'autre chose, du moins au début. Surtout, c'est exténuant, comme si on était en apnée. Parfois, pour respirer à nouveau, on fait les poissons volants, on saute par-dessus le moment, le temps devient alors foncièrement elliptique. Ça devient difficile de nous suivre. Je cite Valérie Pillet lors de l'un de nos workshops avec nos co-chercheurs cette année. On est hyper pauvre dans notre manière de raconter tous ces bouleversements existentiels. Huntington est comme un intensificateur de perception, de sensation, qui devient un guide dans ces bouleversements existentiels qu'on est en train de vivre. Et je poursuis dans le même workshop, on serait des explorateurs à la Cataneo, mais aussi des explorateurs par rapport à notre rapport au monde, à la norme, qui est quelque chose dont on s'écarte, et peut-être alors que ce qu'on apprend et qu'on pourrait transmettre, on l'apprend justement grâce à cet écart. Ça peut donner des billes à tout à chacun, Huntington ou pas Huntington. Pendant ce temps, s'ouvre aussi une enquête sur les métamorphoses perçues de l'intérieur. Il y a ces films extraordinaires de la BBC où l'on voit des métamorphoses d'insectes se faire en accéléré. Ici, c'est extraire du tissu de l'expérience d'altération des fragments, des vues transversales, des petites carottes sédimentaires de ressenti. Pour apprendre à réaliser de telles captations, je recherche des idées au-delà de Huntington. Cette année, j'ai demandé à des volontaires de participer à un atelier d'écriture, ici à Kiasma, et de me parler de leur maladie, quelle qu'elle soit, du plus petit bobo au truc le plus grave, physique, psychique, peu importe, avec la contrainte d'approcher ces états d'indisposition comme des voyages, des déplacements. Ce que m'ont raconté les participants est extraordinaire. Alors je vais vous en citer deux extraits, je ne peux pas plus parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais en faire une petite anthologie plus tard. Par exemple, Benoît. Le petit rien, la ridicule rencontre entre le dehors et mon dedans. Je suis pénétrée, je suis perforée, je suis perfusée, je suis envahie, je suis colonisée. Mais non, j'aime ça. Je sens fort, je pue, j'empeste. C'est la peste qui sort de mes pores, les spores se propagent dehors et je me sens moins seule. C'est le réconfort épouvantable que je n'ai dit qu'à toi d'envahir à mon tour. Et puis une autre citation, ça cette fois de Julie, c'est un pseudo qu'elle s'est choisi. Comment l'annonce d'une maladie nouvelle avait redistribué les contours de ma transparence au monde ? Le ciel avait arrêté ma danse et enflammé toute ma jambe droite d'un feu que je n'avais encore jamais connu et comme jamais je ne l'avais fait, pas même pour accoucher, je me mis à hurler comme le loup, le visage levé vers les cieux comme si les humains qui m'entouraient n'existaient plus, etc., etc., etc. Les devenirs infiniment variables d'une enquête romanesque qui devient, avec Ding Dang Dong et cette année la complicité de Kiasma, une enquête collectivisée, pour reprendre le mot de Catherine Soljou. Ce n'est plus seulement mon enquête, mais des enquêtes entreprises par d'autres qui sont devenues concernées du seul fait de se laisser instruire par ce dont il s'agit et de se mettre alors, à leur tour, en tension d'enquête. Lors de sa conférence ici, Isabelle Stengers a rapporté que l'auteur de fiction, de science-fiction Ursula Le Guin explique que ce qu'elle écrit est réaliste, mais relève d'une réalité plus vaste, toujours en cours de composition. Comme vous pouvez le constater, ce soir, il ne s'agit pas d'une conférence, mais d'une soirée mousse. Je fais de la mousse, pas autre chose, hein, dont le mode d'existence est précisément aussi toujours d'être en cours de composition. C'est-à-dire que je brasse les éléments sans relâche pour obtenir de la matière là où il n'y en a pas, ou plus exactement là où il n'y a que de la virtualité de matière. Par exemple, lorsque je touille ma correspondance chaque jour avec mes informateurs du Huntington Land, qui sont les éclaireurs de ce monde habitable dont nous appelons l'instauration, je charge la connaissance de ce monde, de leurs histoires, de leurs problèmes, mais aussi de leurs découvertes et de leurs félicités. C'est long. Il faut être patient, et c'est difficile pour quelqu'un comme moi, dont l'avenir est, paraît-il, rétréci. Mais je le fais obstinément, je touille. Et peu à peu, j'obtiens justement de l'épaisseur et de la consistance. Le temps, dans son aspect longitudinal, cesse d'être un modèle opérationnel, et la mousse, peu à peu, prend le relais. Il en va de la fabrique d'un contrepoison. Rien n'est donné, c'est ça la mousse. Ça se met à exister uniquement si on travaille la matière correctement. C'est tout un processus. Parfois on croit que ça a pris, et puis non. C'était juste un petit agglomérat de bulles qui ne tiennent pas. Il faut reprendre, changer la formule de départ, changer la manière de brasser et voir ce que ça donne. Il se trouve que c'est un objet qui m'a soufflé la vision du médicament mousse, cette œuvre à alchimiser, et je me dois de lui rendre hommage. Le voici. Un flacon de Tahiti douche à la vanille, né au début des années 70 en Europe, comme moi. C'est lui qui donne son nom de travail à cette mission mousse généralisée. Tahiti Douche. D'ailleurs, au tout début, on a failli s'appeler ainsi, hein, Ding Dang Dong, mais on a dû y renoncer pour des raisons de susceptibilité légale. Alors, je vais vous faire circuler, puis voilà, je le reprendrai à la fin, chargé de vous. Il a déjà beaucoup voyagé, hein, vous allez voir. Il a été à la Barbade, le Vénard. Il a été à Venise, ouais, plusieurs fois à Venise. Puis, bon, il a eu des hauts et des bas, parce que voilà, parfois, c'est pas toujours drôle. La mousse n'est pas une métaphore. C'est la manière, autant que la matière, qui me permet de fabuler un médicament sur mesure, c'est-à-dire de le faire exister d'ores et déjà, rien qu'en principe actif et en effet secondaire bénéfique, et pas de le réduire à une existence hypothétique qu'il faudrait espérer plus tard quand les neurogénético-biologistes l'auront trouvé. Une nappe de matière bienfaisante. Et ici, je lance une commande spéciale à Fabien Sioufi, chef du département réalité virtuelle de Ding Dang Dong, pour transformer cette vision en expérience partageable. Donc, je reprends. Une nappe de matière bienfaisante qui s'étend depuis le milieu, immense, en perpétuelle gestation d'elle-même, une atmosphère dans laquelle on peut vivre en harmonie réussie, et alors l'écriture, c'est ce qui permet de tâtonner sans se préoccuper d'organisation, à part les contacts, les résonances, les commentaires qui grossissent en se frottant les uns contre les autres, les relations entre la formule de départ, concentrée, et les éléments du monde, et le mouvement, le fameux mouvement, qui est le composant clé de toute cette affaire, et dont la voyante Maud Christène dit dans sa lettre qu'elle nous a adressée par l'intermédiaire du docteur Marbeuf, vous pouvez trouver cette lettre sur le site de Ding Dang Dong. Et donc Maud Christène qui dit « Seul le mouvement est éternel ». Et alors, une bulle après l'autre, faire du principe de ne pas savoir à l'avance ce qui va se passer, une force. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
Donc, tant de débuts pour une fin de résidence, c'est assez encourageant. Ça montre que Casma a été une sorte de juste milieu. Donc, on peut, si quelqu'un a des questions, on peut continuer, enfin, entamer la conversation ici ou là-bas, c'est comme vous voulez. Là-bas, c'est-à-dire au bar.
Très, très bon milieu aussi, le bar. Pour boire des mousses.
Je ne sais pas, peut-être dire quelques mots sur votre prochaine publication, qui est plutôt une republication, c'est-à-dire composée avec Huntington, ce grand rapport qui est là, pour le coup, une expression collégiale des travaux.
Oui, qui est vraiment le rapport de recherche tout à fait sérieux sur les savoirs expérientiels liés à la maladie d'Huntington, c'est-à-dire qu'on n'avait vraiment pas cette matière-là dans la littérature, même médicale, de comment vivent les gens avec cette maladie, ce que ça leur fait, comment autour d'eux ils le vivent, et surtout comment ils se débrouillent pour faire quelque chose à partir de ces expériences. Et du coup, on s'y est mis, on a travaillé pendant 2 ans à recueillir auprès d'une vingtaine de familles et d'une quarantaine d'intervenants autres, associatifs, associations, soignants, etc., voilà, leurs histoires et comment ils s'y prenaient. Et puis, on en a tiré un rapport qui s'appelle Composer avec Huntington et qui a reçu hier soir un grand prix. Donc, on est, voilà, avec Valérie, on est allé chercher le grand prix de recherche appliquée sur le handicap. Et donc, on va publier ce rapport sous une forme livre aux éditions Ding Dang Dong en septembre. Et c'est un rapport c'est un livre qui se lit, paraît-il, comme un roman. Donc, c'est pas nous qui le disons. Donc, on l'a entendu suffisamment, on peut le dire maintenant. Parce que c'est vraiment rentré dans le tissu de l'expérience et toute expérience à partir du moment où on le regarde avec délicatesse, bienveillance et surtout sans frayeur, est digne d'intérêt. que ce soit Huntington ou autre chose. Mais là, en tout cas, c'est Huntington. Voilà.
Bonsoir, je m'appelle Marie. C'est une question technique et un peu pratique, mais pour m'aider à comprendre aussi ce que vous nous avez dit ce soir. C'est la maladie de Huntington, elle est évolutive et elle se développe, on ne sait pas quand, si j'ai bien compris.
Elle se développe, alors les statistiques, mais évidemment c'est un mot normalement que nous bannissons à Ding Ding Dong. Justement, parce qu'est-ce que ça fait savoir les statistiques? Qui correspond à une statistique donnée? Personne en fait. C'est une moyenne, c'est forcément, ne correspond à personne. Mais c'est une maladie qui se déclare chez l'adulte au beau milieu de sa vie. C'est pas une maladie du grand âge, c'est pas une maladie qui se déclare tôt, c'est une maladie qui se déclare entre 40, 50, 60 ans. Et il y a des formes beaucoup plus tôt, enfin, précoces, mais elles sont très rares. Et puis il y a des formes plus pour des personnes plus âgées, mais elles sont rares aussi. Donc voilà, c'est au beau milieu de la vie, voilà, et ça prend progressivement de manière très différente d'une personne à l'autre, parfois par le physique, parfois plus par le cognitif, parfois tout en même temps. Ça entraîne des troubles du comportement parce que tout ça se mélange et forcément c'est très inconfortable à vivre. Et surtout, j'ai appris il n'y a pas longtemps que quand. Parce que ça entraîne des difficultés de l'expression et de la communication. Donc, au bout d'un moment, les gens ont de plus en plus de mal à s'exprimer et à parler. Et j'ai appris récemment que qu'on a fait des études en dehors de Huntington, pour que quand les gens n'ont accès pour des raisons X, Y, K, 400 mots du vocabulaire, ils sont systématiquement violents. C'est-à-dire que c'est une réponse normale à cette violence de ne pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, un bébé ne fait que pleurer ou rigoler. Enfin, il n'est pas là en train de faire des nuances, par exemple. Mais là, c'est pareil. La violence peut sortir du fait qu'on n'arrive pas à bien s'exprimer. On n'a plus accès aux nuances, à cette palette-là. Voilà. Enfin, ce n'est pas tout à fait votre question. Mais...
Non, c'est très bien. Et une autre question. Vous avez parlé de votre mère. Entre guillemets, son époque, les diagnostics n'étaient pas comme dans votre cas anticipable, enfin, je sais pas, enfin, elle l'a découvert en ayant la maladie, enfin.
En fait, le gène, enfin, la mutation génétique l'emplacement a été identifié il y a 20 ans très exactement, et tout de suite après a pu s'inventer ce fameux test présymptomatique. Notre mère a passé le test exactement à ce moment-là, juste à partir du moment où ça a été possible, peut-être deux ans plus tard. Donc elle est déjà dans cette génération de ceux qui ont pu passer ça. Par contre, son père, mon grand-père, lui, est tombé un peu malade avant, alors qu'elle, elle a passé le truc, elle n'était pas encore symptomatique, mais elle sentait qu'il y avait des trucs. Mais lui, par contre, il est tombé un peu malade avant, et finalement, ça a été un test plutôt de confirmation pour lui qu'autre chose. Mais en effet, c'est vraiment ça aussi qui fait de cette maladie un site très intéressant au-delà d'Huntington, c'est que des histoires de gènes identifiés, etc., ben, ça va se développer énormément avec les progrès de la génétique. Et donc, il va y avoir d'autres tests comme ça pour d'autres maladies. Et donc, c'est comme un laboratoire intéressant pour penser les pratiques, notamment de diagnostics précoces, et voire même comme celui-là, carrément, parfois, on vous annonce 30 ans avant quoi, hein, que vous allez développer quelque chose. Et toutes les questions éthiques qui se posent, bien sûr, par rapport au fait de faire des enfants dans ce contexte-là, etc., etc. Donc c'est vraiment un laboratoire qui est intéressant, in vivo, en fait. Et on est la première génération où on a vraiment maintenant pris un peu l'habitude du test. Et donc, moi, je dis toujours que ça va donner dans trois générations, on sera déjà dans une autre histoire, même s'il n'y a pas encore de traitement. On aura, j'espère, progressé dans les manières d'accueillir cette histoire. Parce que pour le moment, on essuie les plâtres, un peu.
Et une dernière question. À la différence d'autres maladies où les gens l'apprennent quand ils l'ont, vous apprenez que vous allez l'avoir. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de justement l'avoir appris peut-être trop tôt ou ne pas avoir vraiment voulu le savoir au moment où on vous l'a dit? Est-ce que ça aurait pu, à vos yeux, changer quelque chose dans votre manière de vivre, cette période certes d'attente, mais d'attente non sachante plutôt que sachante.
Oui, alors il y a pas mal de gens qui passent le test alors qu'ils sont déjà un petit peu symptomatiques en fait. Hein, donc là, on parle vraiment de quelque chose de particulier qui est le pré-symptomatique. C'est pour les gens qui ne sont pas symptomatiques. Bah, évidemment, oui, je me pose tous les jours la question de savoir ce que j'ai bien fait d'aller faire ce test. Est-ce que c'était pas trop tôt, pas trop tard, trop tard, non, certainement pas. Ça changerait toute l'histoire, de toute façon. Donc, comme on ne peut pas retirer de sa mémoire quelque chose, moi, ma façon de faire, c'est de faire avec ça. Mais la plupart des gens ne passent pas le test. C'est vraiment une minorité qui passe le test, souvent pour des raisons de projet parentalité. Parce qu'on peut éviter, aujourd'hui, ça c'est quand même intéressant, le risque de transmettre le gène à ses enfants en passant par une FIV ou en passant par des choses pas très marrantes. Hein. Mais quand même, c'est possible théoriquement. Ça pose des questions aussi, mais bon, c'est possible. Mais donc, ceux qui ne sont pas dans un projet parental, en gros, pourquoi faire un test pareil alors qu'il n'y a pas de traitement? Maintenant, moi, je me dis un peu les choses différemment, et c'est ce qu'on se dit à Ding Dang Dong surtout, c'est que telles que les choses sont configurées à l'heure actuelle, certes, c'est mieux vaut, au fond, enfin, on ne donne de conseils à personne, chacun est absolument... Mais au fond, oui, à quoi ça sert? Par contre, si on faisait cette histoire vraiment autre chose qu'un truc qui nous transforme en policier, si on faisait vraiment quelque chose de cette histoire, on accompagne les gens à accueillir toute cette histoire en inventant pour chacun, enfin donnant la force à chacun d'inventer un truc qui est d'aimer la vie avec ça, de se sentir absolument OK d'être avec ça, d'être un peu différent peut-être, mais d'être pas foutu. Voilà, moi, c'est ce qu'on m'a dit il y a 10 ans, que c'était terminé. Donc, évidemment que si on dit aux gens, alors même que ce n'est pas commencé, que c'est terminé, pourquoi aller faire ce test? Et moi, je dis, c'est pas la peine d'y aller. Mais si, on, comme dit Catherine Sojou, on se met à cultiver collectivement et on prend cette histoire pour en faire quelque chose qui devient intéressant, on devient à la hauteur de ce geste de prédiction, alors là, on fait culture avec ça. Alors là, pourquoi pas? Et là, peut-être tout le monde ira faire le test, parce que génial, ouais, je sais que je ne l'ai pas, c'est génial, je sais que je l'ai, c'est génial. Bon, j'exagère, mais c'est intéressant parce que j'ai plein de choses à faire. Et je suis pas lâchée dans la nature en attendant que, en train de me surveiller, ce qui provoque évidemment des dépressions, des angoisses et des trucs comme ça. Donc voilà, la chose n'a pas encore tout à fait été métamorphosée, mais on y travaille très activement et à force, ça fait 4 ans qu'on existe, on entend de ci, de là que des choses commencent à pivoter. Donc voilà, on va continuer comme ça.
Bonsoir. En fait, je me demandais comment vous avez choisi de réunir tous ces gens dans ce collectif qui ont, en fait, quand on les connaît un peu, une manière en fait de déconstruire un peu certaines choses qui structurent notre réalité contemporaine en termes de production des savoirs sur le réel et voilà. Mais en fait, qu'est-ce qui vous a poussé à aller voir Vinciane Després, Bruno Latour, Isabelle Stengers, comment vous avez fait le casting, si on veut, pour Ding Dang Dong?
C'est une histoire assez longue à raconter, mais en pitch, en résumé, avec Valérie Pillet, qui est là, on a travaillé avec une partie de ces personnes-là dans nos vies antérieures. Et donc, on a été... Enfin, c'est un peu l'œuf et la poule, on a été... très, très, très impressionné et formé par cette pensée-là, ce courant qui, comme tous les courants, fait un petit comme les amibes de tout à l'heure, des petits agrégats. Là, c'est vrai que c'est une famille de pensée, vous avez tout à fait raison. Avec les artistes, c'était un petit peu différent. On a allé chercher des personnes qui ne travaillaient pas forcément ensemble ni avec ces penseurs-là. Mais c'est un peu logique en même temps que ce soit des héritiers de la pensée pragmatiste de James, entre autres, mais voilà, pour qui la vérité est quelque chose qui se construit et qui doit se construire à l'épreuve des effets que ça a sur le réel. Donc ça, c'est exactement ça le bon milieu pour nous pour travailler à se mêler d'un savoir sur une maladie au point de peut-être changer le cours naturel de cette maladie. Donc, c'est carrément un pari à la James, très très fou que de dire... De dire ce pari, je veux tellement y croire que je vais tout faire pour le rendre réel. Et je mesure dans les conséquences de ce que je fais à chaque fois, est-ce que c'est intéressant ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est tout à fait une famille de penseurs, en effet, qui pense les choses comme ça. Et pour les artistes, ça a été des personnes dont les pratiques nous interpellaient et on avait envie de pouvoir faire qu'ils deviennent des chercheurs aussi, que ce qu'ils amènent leur pratique et du coup devenir chercheurs au même titre que les autres chercheurs penseurs plus classiques. Donc la danse, c'était évident que c'était hyper important, mais aussi voilà, le cinéma, voilà, comment raconter des histoires, en fait, hein, c'est une vaste entreprise de racontage d'histoires, Ding Dong Dong. Mais comme la science, c'est une vaste entreprise de racontage d'histoires aussi.
Je voudrais remercier une dernière fois dans le cadre de sa résidence, Alice Rivière. Voilà. Et m'excuser auprès de vous, cette soirée mousse est hyper mal organisée, il n'y a pas de champagne, mais il y a du vin de trois couleurs, du vin de deux couleurs, de la bière de trois, et voilà, tout à l'heure au bar, et merci beaucoup d'être venu, bonne soirée à vous. Merci.